Chapitre 8. Menace. Cet hiver-là, Béarn se fit lentement dévorer, telle une falaise par les marées de tempête. Tout d'abord, le duc Brondig tint Kétriken régulièrement informé. Des messagers en livrée voyageaient à dos de cheval pour lui remettre en main propre les nouvelles du duc. Au début, ses nouvelles étaient optimistes. Ses opales avaient rebâti Bac, et ses habitants lui envoyaient non seulement leurs remerciements, mais aussi un coffret rempli des perles minuscules qu'il prisait fort. C'était un geste étrange. Ces perles, il les avait jugées trop inestimables pour les sacrifier, fût-ce pour reconstruire leur village, il les offrait spontanément pour rendre grâce à une reine qui avait donné ses bijoux afin de leur fournir un abri. Je doute que quelqu'un d'autre pût être plus sensible à la mesure de leur sacrifice. Kétriken versa des larmes sur le coffret. Plus tard, les nouvelles se firent plus sinistres. Entre les tempêtes, les pirates rouges ne cessaient de frapper. Les messagers rapportèrent à Kétriken l'étonnement du duc devant le départ du membre du clan attaché à la tour rouge. Quand Kétriken demanda carrément à Seren si cela était vrai, celle-ci répondit qu'il était devenu trop dangereux d'y maintenir Guillot, car son art était trop précieux pour qu'on l'exposât aux pirates. Rares furent ceux à qui l'ironie de la situation échappa. À chaque arrivée d'un messager, les nouvelles empiraient. Les Outréliens avaient établi des têtes de pont sur les îles du Croc et Bécham. Hardiment, le duc Brondy avait alors réuni des bateaux de pêche et des guerriers pour les attaquer à son tour, mais s'était heurté à des pirates trop bien retranchés. Navires et guerriers périrent, et Béarn annonça solennellement n'avoir plus de fonds pour financer une autre expédition. À ce moment, les émeraudes de vérité furent rendues à Kétriken, qui les renvoya sans une hésitation. Si elles furent utiles, nous n'en sûmes rien. Nous n'eûmes même jamais la certitude qu'elles fussent bien arrivées. La transmission des messages de Béarn devint erratique, et il fut bientôt évident que certaines nouvelles ne nous parvenaient pas. Enfin, les communications avec Brondy cessèrent tout à fait. Après que deux de ses messagers ne furent jamais revenus à Castelser, Kétriken décida de ne plus risquer de vie. Entre-temps, les pirates du Croc et de Bécham avaient commencé à lancer des attaques plus bas le long de la côte, en évitant le voisinage de Castelser, mais en multipliant les faux assauts et les provocations au sud et au nord du château. À tous ces raids, Royal demeurait imperturbablement indifférent. Il affirmait préserver les ressources du royaume pour le moment où Vérité reviendrait avec les anciens et chasserait les pirates une fois pour toutes. Cependant, les fêtes et les réjouissances étaient toujours plus somptueuses et fréquentes à Castelser, et les cadeaux faits aux ducs et aux nobles de l'intérieur, toujours plus généreux. En milieu d'après-midi, Burik avait regagné son logement. « J'aurais préféré le garder là où je pourrais veiller sur lui », mais il avait ri de mes craintes. C'est Brodette elle-même qui s'était occupée d'apprêter l'appartement, et Burik avait assez grommelé à ce propos. Pourtant, elle s'était contentée de préparer un feu, de faire monter de l'eau fraîche, aérer, et battre la literie, nettoyer les sols et répandre des roseaux fraîchement coupés. Une des bougies de Molly brûlait au centre de la table en répandant un agréable parfum de pain dans l'atmosphère confinée, mais Burik avait grondé qu'il ne reconnaissait plus l'odeur de sa propre chambre. Je l'avais laissé assis dans son lit, une bouteille d'eau de vie à portée de main. C'est lui qui me l'avait demandé. Et je ne savais que trop bien pourquoi. En l'aidant à regagner son logement, nous avions traversé les écuries et nous étions passés devant des rangées de boxes vides. Non seulement des chevaux manquaient à l'appel, mais aussi des chiens de chasse parmi les meilleurs. Je n'avais pas eu le courage d'aller voir du côté de la fauconnerie, mais j'avais la certitude de la trouver semblablement pillée. Pogne nous avait accompagnés dans un silence bouleversé. Son travail était partout visible. Les écuries proprement dites étaient immaculées. Les chevaux restants étriés à embrayer comme des sous-neufs. Même les boxes vides avaient été récurés et chaulés. Mais un buffet vide, si propre soit-il, ne console pas l'affamé. Les écuries étaient le trésor et le foyer de Burik. Il les retrouvait tous deux mis à sac. Après l'avoir quitté, je me rendis aux étables et aux enclos, où les animaux de reproduction passaient l'hiver. Je les trouvais aussi vides que les écuries. Des taureaux de concours avaient disparu. Des moutons noirs à dos bouclé, qui emplissaient d'habitude tout un parc, seuls subsistaient 6 brebis et un bélier rachitique. J'ignorais quelles autres bêtes hivernaient là d'ordinaire. Mais trop nombreux étaient les stalles et les enclos vides à une époque de l'année où ils étaient normalement pleins. Sorti des étables, je déambulais parmi les entrepôts et les dépendances. Devant l'une d'elles, des hommes s'affairaient à charger des sacs de grains sur un chariot. 2 autres fourgons, déjà pleins, attendaient non loin de là. J'observais un moment le travail, puis proposais mon aide en voyant le chargement s'élever et les sacs devenir plus difficiles à hisser. Les hommes s'empressèrent d'accepter mon offre et nous bavardâmes tout en œuvrant. Une fois la tâche achevée, je les saluai joyeusement de la main et rentrai à Palan au château en me demandant pourquoi on transvasait tout le grain d'un entrepôt sur un chaland avant de l'envoyer à Turlac par le fleuve. Je décidai d'aller voir comment se portait Burick avant de rentrer chez moi. Arrivé en haut des marches, j'observai avec inquiétude que sa porte était entrebâillée. Craignant quelque perfidie, je la poussai et fit sursauter Molly qui était occupée à disposer des plats sur une petite table à côté du fauteuil de Burick. À la vue de Molly, je demeurai pantois, les yeux écarquillés. Enfin, je me tournai vers Burick et trouvai son regard posé sur moi. « Je te croyais seul ?» dis-je bêtement. Il me dévisagea avec des yeux de hibou. Manifestement, il avait sérieusement entamé la bouteille d'eau-de-vie.
« Je pensais le rester. »
me dit-il gravement. Comme toujours, il tenait bien l'alcool, mais Molly n'était pas dupe. Je le voyais à ses lèvres pincées. Sans me prêter la moindre attention, elle continua de vaquer à sa tâche et dit à Burick « Je ne vais pas vous déranger longtemps. Dame Patience m'a envoyé vous porter un repas chaud, car vous n'avez presque rien mangé ce matin. Je vous laisse dès que j'ai fini de l'installer sur la table. »
« Et mes remerciements vous accompagneront, »
fit Burick. Son regard allait de Molly à moi. Il percevait la contrainte qui régnait entre nous, ainsi que le dégoût que son état lui inspirait. Et il voulut s'excuser.
« J'ai fait un dur voyage, maîtresse, et ma blessure me fait mal. J'espère ne pas vous avoir fâché. »
« Je n'ai pas à me fâcher de ce qu'il vous plaît de faire, messire, » répondit-elle en achevant de dresser la table. « Puis-je faire autre chose pour votre confort ?» Elle s'exprimait poliment, mais sans plus, et elle ne me jeta pas le moindre coup d'œil.
« Oui, acceptez mes remerciements, pas seulement pour le repas, mais aussi pour les bougies qui ont purifié l'air de ma chambre. On m'a dit que vous les aviez créées. »
Je la vis se dégeler un peu. C'est Dame Patience qui m'a prié de les apporter, et j'ai obéi avec plaisir.
Je vois.
Les paroles suivantes lui coûtèrent davantage.
Dans ce cas, présentez-lui aussi mes remerciements, s'il vous plaît. Et à Brodette également, sans doute.
C'est promis. Vous n'avez donc besoin de rien d'autre ? J'ai des courses à faire à Bourg de Castelserre pour Dame Patience. Elle m'a dit que si vous désiriez quelque chose, je devais vous le rapporter.
Non, rien. Mais c'est aimable de sa part d'y avoir pensé. Merci.
Je vous en prie, messire. Et Molly, son panier vide au bras, sortit sans même un regard pour moi. Burick et moi restâmes face à face. Je jetai un coup d'œil à la porte que venait de franchir Molly, puis m'efforçai de penser à autre chose. « Il n'y a pas que dans les écuries que ça va mal, » fis-je, et je lui rapportai brièvement ce que j'avais constaté aux étables et aux entrepôts.
« J'aurais pu te le dire moi-même, »
répondit-il d'un ton bourru. Il regarda le repas disposé sur la table, puis se resservit d'eau-de-vie.
En longeant la serre, on a entendu des rumeurs. Certains prétendaient que Royal vendait les bêtes et le grain pour financer la défense des côtes. D'autres, qu'il envoyait les animaux de reproduction à la bourre pour les mettre en sécurité. Il avala l'alcool d'une seule lampée. Les meilleurs chevaux sont partis. Je m'en suis rendu compte dès mon arrivée. Même avec 10 années devant moi, je ne crois pas que je parviendrai à obtenir des bêtes de cette qualité.
Il remplit sa coupe à nouveau.
Toute une vie de travail réduite à néant, Fitz. L'homme aime à croire qu'il laissera sa marque dans le monde. Moi, J'avais réuni ces chevaux, j'avais créé des lignées, et il n'en reste rien. Elles sont éparpillées aux quatre vents des six duchés. Bien sûr, elles amélioreront les cheptels auxquels elles seront mélangées, mais je ne verrai jamais ce qu'elles auraient donné si j'avais pu continuer. Placide va saillir les grandes juments de la bourre, sans doute, et quand Braise mettra bas son poulain, celui qui le séchera n'y verra qu'un cheval comme un autre. Depuis six générations, je l'attendais, ce poulain. Le meilleur cheval de chasse qu'une jument ait jamais porté, et on va me l'atteler à une charrue. » Il n'y avait rien à répondre. C'était très probablement exact. « Mange un peu, » proposai-je. « Comment va ta jambe ?» Il souleva la couverture pour l'examiner superficiellement. « Elle est toujours là, en tout cas. Je n'ai pas à me plaindre, j'imagine. Et elle va mieux que ce matin. Le gourdin du diable a bel et bien aspiré l'infection. Cette femme a beau avoir la cervelle d'un poulet, elle s'y connaît en plantes médicinales. Je n'eus pas besoin de lui demander de qui il parlait. « Tu comptes manger ?» Il posa sa coupe et prit une cuillère, puis goûta la soupe. À contre-cœur, il fit un signe approbateur de la tête. « Alors, comme ça, » fit-il entre deux cuillerées, « c'était la fameuse Molly. » Je hochai la tête. « Je l'ai trouvée un peu froide avec toi. »« Un peu, » répondit sèchement. Burig sourit ironiquement. « Tu es aussi susceptible qu'elle. J'imagine que Patience ne lui a pas dit grand bien de moi. Elle n'aime pas les ivrognes, » dis-je sans embâge. Son père s'est tué à force de boire, mais avant ça, il s'est débrouillé pour faire un enfer de la vie de sa fille pendant des années. Il la battait quand elle était petite, et quand elle est devenue trop grande, il la couvrait d'injures et de reproches. Ah ! À geste précautionneux, Burig remplit sa coupe. C'est bien triste. C'est aussi son avis, répliquai-je d'un ton cassant. Il me regarda en face. Je n'y suis pour rien, Fitz, et je ne me suis pas montré grossier avec elle pendant qu'elle était ici. Je ne suis même pas ivre. Pas encore. Alors remballe tes grands airs et raconte-moi plutôt ce qui s'est passé à Castelserre pendant mon absence. Je me levai donc et lui fis mon rapport comme s'il avait le droit de me le demander, ce qui était le cas, dans un sens. Il poursuivit son repas pendant que je parlais, puis, quand j'eus fini, il se versa encore à boire et se laissa aller contre le dossier de son fauteuil, sa coupe entre les mains. Il fit tourner l'eau-de-vie dans son verre, l'observa un instant, puis releva le regard. « Ekétriken est enceinte, mais ni le roi, ni Royal ne sont encore au courant. » « Je croyais que tu dormais. » « Je dormais. Je croyais avoir rêvé cette conversation. Enfin. » Il avala le contenu de sa coupe, puis se redressa, ôta la couverture de ses jambes et plia lentement le genou jusqu'à ce que la blessure se rouvre. Je fis la grimace, mais Burig, lui, se contenta d'examiner la plaie d'un air pensif. Il remplit à nouveau sa coupe et la vida. La moitié de la bouteille avait disparu. Bon, eh bien, il va falloir que je mette une attelle à cette jambe si je veux que cette entaille reste fermée. Il leva les yeux vers moi. Tu sais ce qu'il me faut. Tu veux bien aller me le chercher. À mon avis, tu devrais laisser ta jambe tranquille un jour ou deux, le temps qu'elle se repose. Tu n'as pas besoin d'attelle au lit. Il me dévisagea un long moment, puis, qui garde la porte de Ketriken? Je ne crois pas que... Il doit y avoir des femmes qui couchent dans son antichambre. Tu sais très bien qu'il essaiera de les tuer, elle et son enfant, dès qu'il sera au courant. La nouvelle est encore secrète. Si tu montes la garde à sa porte, tout le monde devinera ce qui se passe. Si je compte bien, cinq personnes sont dans la confidence. Ce n'est plus un secret, Fitz. Six, corrigeai-je. Lugubre. Le fou l'a deviné il y a quelques jours. Ah! J'eus la satisfaction de voir une expression sidérée passer sur le visage de Burig. Eh bien, au moins lui, il sait tenir sa langue. Mais comme tu vois, Le secret ne sera pas gardé bien longtemps. Les rumeurs commenceront à circuler avant la fin du jour. Tu peux me croire sur parole. Non, ce soir, je m'installe devant sa porte. Mais pourquoi toi? Repose-toi, je vais. On peut mourir d'avoir manqué à son devoir, Fitz, le sais-tu? Un jour, je t'ai dit que le combat n'était fini, que quand on l'avait gagné, je ne baisserai pas les bras à cause de ça. Il désigna sa jambe d'un air dégoûté. J'ai déjà bien assez honte que mon prince ait continué son chemin sans moi. Je ne lui faillirai pas ici. De toute manière, et il éclata d'un rire amer qui ressemblait à un aboiement. Il n'y a plus assez à faire aux écuries pour Pogne et moi. D'ailleurs, le cœur n'y est plus. Allons, veux-tu bien aller me chercher de quoi fabriquer des attelles? J'obéis, et je l'aidai à enduire la plaie de son baume avant de la bander proprement et de l'éclisser. Il enfila un vieux pantalon dont il avait découpé une jambe dans le sens de la longueur pour laisser passer la telle, puis je lui prêtai mon épaule pour descendre l'escalier. En bas, malgré ce qu'il avait dit, il se rendit au box de Rousseau afin de vérifier si l'on avait lavé et soigné sa blessure. Je l'abandonnai là et remontai au château. Je voulais avertir Ketriken que quelqu'un se tiendrait devant sa porte cette nuit et lui en expliquer le motif. Je frappai à sa porte et Romarin vint m'ouvrir. La reine était bien chez elle, ainsi que certaines de ses dames de compagnie, la plupart occupées à bavarder tout en tirant l'aiguille. Ketriken, elle, avait ouvert sa fenêtre sur la douceur hivernale du jour et contemplait la mer calme, le front soucieux. Elle m'évoqua vérité lorsqu'il artisait, et je soupçonnais qu'elle ruminait les mêmes inquiétudes. Je suivis son regard et me demandais, moi aussi, où les pirates rouges frapperaient aujourd'hui, et quelle était la situation en Béarn. Pourtant, cette dernière question était vaine. Officiellement, nous n'avions aucune nouvelle de Béarn, mais les rumeurs disaient que ses côtes étaient rouges de sang. Romarin, je voudrais dire un mot en privé à Sa Majesté. La petite fille hocha gravement la tête et alla faire une révérence à sa reine. L'instant suivant, Ketriken regarda dans ma direction et me fit signe de la rejoindre près de la fenêtre. Je la saluai et, souriant, me mis à désigner la mère du geste comme si nous parlions du beau temps. Mais, à mi-voix, je lui dis « Burik désire garder votre porte à partir de ce soir. Il craint que votre vie ne soit en danger quand certains apprendront que vous êtes enceinte. » Une autre femme aurait peut-être pâli ou au moins eu l'air surpris. Mais Ketriken posa une main légère sur le couteau éminemment pratique qu'elle portait toujours accroché à côté de ses clés. J'en viens presque à souhaiter une attaque aussi franche. Elle réfléchit. C'est sage, sans doute. Quel risque courons-nous à laisser paraître nos soupçons? Ou plutôt, notre certitude. Pourquoi devrais-je faire preuve de prudence et de délicatesse? Burik a déjà reçu le message d'accueil de nos ennemis sous la forme d'une flèche dans la jambe. L'amertume de ses paroles et la férocité qu'elle recouvrait me laissèrent pantois. Qu'il monte la garde, et qu'il en soit remercié. Je pourrais choisir un homme en meilleure santé, mais je n'aurai pas en lui la confiance que j'ai en Burik. Sa blessure lui permettra-t-elle d'accomplir son devoir? Je pense que son orgueil ne lui permettrait pas de laisser quelqu'un d'autre l'accomplir. Alors c'est parfait. Elle s'interrompit un instant. Je lui ferai donner un siège. Je doute qu'il s'en serve. Elle soupira. À chacun sa façon de se sacrifier. Un siège sera tout de même à sa disposition. J'inclinai la tête et elle me congédia. Je remontai chez moi dans l'intention de ranger tout ce qui avait été sorti pour soigner Burik. Mais, dans le couloir, j'eus la surprise de voir la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Je me dissimulai dans l'embrasure d'une autre porte, et au bout d'un moment, Justin et Seren sortirent de chez moi. J'émergeai de ma cachette sous leur nez. « Toujours à la recherche d'un endroit pour vos rendez-vous d'amoureux ?» demandai-je d'un ton acide. Ils se figèrent sur place. Justin recula presque derrière Seren, qui le foudroya du regard, puis me toisa. « Nous n'avons à répondre de rien devant toi. Même pas de votre intrusion chez moi. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» Justin soufflait comme s'il venait de faire une longue course. Je plantai mes yeux dans les siens et souris. Il demeura quoi ?
Nous n'avons rien à te dire, déclara Sereine. Nous savons ce que tu es. Viens, Justin.
Vous savez ce que je suis ?
Allons bon. En tout cas, moi, je sais ce que vous êtes. Et je ne suis pas le seul.
Homme bête ! Cracha Justin.
Tu te vautres dans les magies les plus immondes ! Croyais-tu pouvoir passer inaperçu parmi nous ? Pas étonnant que Galen t'ait jugé indigne de l'art.
Sa flèche avait frappé dans le mille et vibrait dans ma crainte la plus secrète, mais je m'efforçais de n'en laisser rien paraître. Moi, je suis loyal au roi subtil. Le visage composé, je soutins leurs regards. Je n'ajoutai rien, mais je les examinai de haut en bas en les comparant à ce qu'ils auraient dû être, et le résultat ne fut pas à leur honneur. À leur façon imperceptible de se dandiner sur place, au coup d'œil qu'ils échangeaient, je compris qu'ils se savaient félons. Ils rendaient leur compte à Royal, tout en sachant qu'ils auraient dû les rendre au roi. Ils ne se leurraient pas sur eux-mêmes. Peut-être Galen leur avait-il imposé une loyauté indéfectible envers Royal. Peut-être ne concevait-il même pas de le trahir. Mais une partie d'eux-mêmes savait que Subtil était le roi, et qu'ils étaient parjures envers un souverain à qui ils avaient juré fidélité. J'en pris soigneusement note. C'était une fissure dans laquelle un coin pourrait bien un jour s'enfoncer. Je m'avançai vers eux et savourai de voir Sereine s'écarter peureusement de moi, tandis que Justin essayait de se faire tout petit entre elle et le mur. Mais je n'eus pas le moindre geste hostile. Je leur tournai le dos et ouvris ma porte. Comme j'entrais dans ma chambre, je sentis une volute sournoise d'art effleurer les limites de mon esprit. Je la bloquai automatiquement, comme Vérité me l'avait enseigné. « Gardez vos pensées pour vous-même, » leur lançai-je, sans même leur faire l'honneur de me retourner. Puis, je fermai la porte derrière moi. Je passai un moment à reprendre mon souffle. Du calme, sans baisser ma garde mentale. Puis, sans bruit, soigneusement, je poussai mes verrous. Une fois la porte barrée, je fis prudemment le tour de ma chambre. Un jour, Ambre m'avait averti qu'un assassin devait toujours soupçonner l'adversaire d'être plus doué que lui, car c'était le seul moyen de conserver la vie sauve et l'esprit vigilant. Aussi, ne touchais-je à rien au cas où certains objets eussent été enduits de poison. Je me plaçai au centre de la pièce, fermai les yeux et m'efforçai de me la rappeler telle qu'elle était lorsque je l'avais quittée. Puis, je rouvris les yeux et cherchai ce qui avait pu changer. Le petit plateau d'herbe se trouvait au milieu du couvercle de mon coffre, alors que je l'avais posé à l'une des extrémités, à portée de main de Burik. Ils avaient donc fouillé dans mes vêtements. La tapisserie du roi Sagesse, de Guingois depuis des mois, était à présent verticale. Je ne remarquai rien d'autre, ce qui ne lassa pas de m'intriguer, car je ne voyais pas ce qu'ils espéraient découvrir. La fouille de mon coffre semblait indiquer un objet assez petit pour s'y cacher. Mais pourquoi soulever une tapisserie et regarder derrière ? Je réfléchis un moment. Ils n'avaient pas opéré au petit bonheur la chance. J'ignorais le but de leur présence chez moi, mais, à mon avis, on avait dû leur ordonner d'y chercher un passage secret, et cela signifiait que le meurtre de Dame Tain n'avait pas satisfait Royal. Il nourrissait davantage de soupçons qu'Imbre ne me l'avait donné à penser. J'éprouvais alors presque du soulagement à n'avoir jamais réussi à découvrir comment ouvrir l'accès aux appartements d'Imbre. Son secret m'en semblait mieux protégé. J'examinais chaque objet avant de m'en saisir. Je veillais à jeter la moindre miette qui subsistait sur les plateaux de mijote, là où nul, homme ou bête, ne risquerait d'y goûter par mes gardes. Et j'en fis autant de l'eau des seaux et de ma cuvette. J'inspectais ma literie, ma réserve de bois et de bougies à la recherche de traces de poudre ou de résine, et me débarrassais, le cœur crevé, de tout mon stock d'herbe. Je ne tenais pas à courir de risques. Rien ne semblait manquer à mes affaires, et rien ne paraissait y avoir été ajouté. Pour finir, je m'assis sur mon lit, épuisé autant qu'inquiet. J'allais devoir me tenir davantage sur mes gardes. Je me rappelais l'expérience du fou, et je n'avais aucune envie de me retrouver la tête dans un sac, et battu comme plâtre la prochaine fois que j'entrerai chez moi. Ma chambre me parut soudain étouffante,
tel un piège dans lequel je devais me renfermer chaque jour. Je sortis sans prendre la peine de verrouiller la porte derrière moi. Les verrous étaient inutiles. Que mes ennemis voient que je ne craignais pas leur intrusion, même si c'était faux. L'après-midi était doux et le ciel clair. Je savourais ma promenade dans l'enceinte intérieure du château, mais ce temps clément, hors de saison, m'angoissait, et je décidai de descendre en ville, rendre visite aux Rurisques et à mes compagnons de bord, après quoi j'irai peut-être prendre une bière dans une taverne. Il y avait trop longtemps que je n'avais pas mis les pieds au bourg et que je n'avais pas écouté les commérages de ses habitants. Ce serait un soulagement que d'oublier quelque temps les intrigues de Castelserre. J'allais franchir les portes de la citadelle quand un jeune garde se plaça en travers de mon chemin. « Halte !» fit-il. Puis, comme il me reconnaissait, « S'il vous plaît, messire. » J'obéis doucement. « Oui. » Il s'éclaircit la gorge, puis rougit soudain jusqu'à la racine des cheveux. Il prit une inspiration, mais demeura muet. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demandai-je. « Attendez un instant !» bredouilla le jeune homme. Il disparut dans le corps de garde, et quelques secondes plus tard, un officier, une femme, se présenta devant moi. Elle me considéra d'un air grave, souffla comme si elle rassemblait son courage, et me dit à mi-voix. « Vous n'avez pas le droit de quitter le château. » « Pardon ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle se redressa, et d'une voix plus ferme. « Vous n'avez pas le droit de quitter le château. » La colère me prit soudain, mais je la réprimai. Sur ordre de qui ? Elle ne broncha pas. « Mes ordres viennent du capitaine de la garde, messire. C'est tout ce que je sais. » Je voudrais parler à ce capitaine. Je m'efforçai de conserver un ton courtois. « Il n'est pas dans le corps de garde, messire. » Je comprends. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je sentais les nœuds coulants se resserrer autour de mon cou. Mais pourquoi maintenant ? Naturellement, la question suivante devait être « Pourquoi pas ?» Subtil affaibli, Vérité était devenu mon protecteur, mais il était loin. Je pouvais me tourner vers Kétriken, à condition de vouloir la placer en situation de conflit ouvert avec Royal. Or, je ne le souhaitais pas. Et Imbre restait, comme d'habitude, un pouvoir dissimulé. Toutes ces réflexions traversèrent rapidement mon esprit. Je faisais demi-tour quand j'entendis quelqu'un m'appeler. Je me retournai. C'était Molly qui revenait de la ville. Le tissu bleu de sa robe de servante battait ses mollets au vent de sa course, car elle courait, lourdement, à pas inégaux qui n'évoquaient en rien ses enjambées ordinairement gracieuses. Elle était au bord de l'épuisement.
« Fitz !»
cria-t-elle encore, et je perçus de l'effroi dans sa voix. Je voulus m'élancer à sa rencontre, mais l'officier me barra brusquement le chemin. Il y avait de la peur sur ses traits, mais aussi de la détermination.
« Je ne peux pas vous laisser passer les portes. J'ai des ordres. »
J'eus envie de l'écarter d'un coup de poing, mais je contins ma rage. Me battre avec elle n'aiderait pas Molly.
« Alors allez la chercher par tous les diables. Vous ne voyez pas qu'elle a des ennuis ?»
Elle ne bougea pas d'un pouce.
« Mille !»
cria-t-elle. Et le jeune homme sortit d'un bond.
« Va voir ce qu'a cette femme, dépêche-toi !»
Le soldat partit comme un trait. Par-dessus l'épaule de l'officier inébranlable, je le regardais, impuissant, courir vers Molly. Parvenu auprès d'elle, il lui passa un bras autour de la taille et prit son panier de l'autre main. S'appuyant lourdement sur lui, hoquetante, pleurant presque, Molly arriva près des portes. J'eus l'impression qu'il lui fallut une éternité pour les franchir et se blottir dans mes bras.
« Fitz, oh Fitz !»
fit-elle en sanglotant. « Là, là !» dis-je d'un ton apaisant, et je l'entraînai à l'écart des gardes. J'avais fait ce que la raison dictait, mais je ne m'en sentais pas moins humilié.
« Pourquoi n'es-tu pas venu m'accueillir ?»
demanda Molly, haletante. Les gardes m'en ont empêché. « Ils ont ordre de ne pas me laisser quitter Castelserre, » répondis-je à mi-voix. Je la sentais trembler contre moi. Je lui fis tourner l'angle d'un entrepôt pour la mettre hors de vue des gardes, qui nous regardaient toujours, bouche bée. « Qu'y a-t-il ? Qu'était-il arrivé ? » manquis-je d'une voix que je voulais rassurante.
Je repoussai les cheveux qui lui tombaient sur le visage. Au bout de quelques instants, elle se calma. Sa respiration devint plus égale, mais elle continua de trembler.
J'étais descendu en ville. Dame Patience m'avait donné mon après-midi, et je devais faire quelques achats pour mes bougies.
À mesure qu'elle parlait, ses tremblements s'apaisaient. Je lui soulevai le menton, et elle me regarda dans les yeux. Et alors ?
J'étais sur le chemin du retour, dans la côte raide à la sortie de la ville, tu sais, là où il y a les aulnes.
J'acquiesçai de la tête. Je connaissais l'endroit.
J'ai entendu des chevaux arriver. Ils allaient très vite alors. Je me suis écarté pour leur laisser le passage.
Elle se remit à trembler.
Je continuai à marcher, persuadé qu'ils allaient me dépasser. Mais tout à coup, je les ai entendus derrière moi. Et quand je me suis retourné, ils fonçaient droit sur moi. J'ai sauté en arrière dans les buissons, mais ça ne les a pas arrêtés. J'ai fait demi-tour, et je me suis sauvé, mais ils continuaient à me poursuivre.
Sa voix devenait de plus en plus aiguë.
Chut, attends, calme-toi.
Réfléchis. Combien étaient-ils? Les connaissais-tu? Elle secoua violemment la tête.
Deux. Je n'ai pas vu leur visage. Je m'enfuyais, et ils portaient des casques qui cachent les yeux et le nez. Ils m'ont pourchassé. Ces raides par là, tu sais, et plein de broussailles. J'essayais de leur réchapper, et ils lançaient leurs chevaux à travers les buissons pour m'empêcher de m'enfuir, comme les chiens qui rattrapent les moutons. J'ai couru, couru, mais je n'arrivais pas à les semer. Et puis je suis tombé. J'ai trébuché sur un morceau de bois et je suis tombé. Alors ils ont sauté de cheval. L'un d'eux m'a maintenu au sol pendant que l'autre prenait mon panier. Il l'a vidé par terre comme s'il cherchait quelque chose, mais il ne cessait pas de rire, de rire. J'ai cru.
Mon cœur battait à présent aussi fort que celui de Molly. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ?
Demandai-je d'une voix rauque. Elle ne répondit pas tout de suite, comme si elle n'en savait rien elle-même, puis secoua la tête d'un air éperdu.
Ah, comme tu le crains ! Il m'a simplement tenu à terre, en riant aux éclats. L'autre a dit... Il a dit que j'étais vraiment idiote de laisser un bâtard se servir de moi. Ils ont dit...
Encore une fois, elle s'interrompit. Ce qu'il lui avait dit, les noms dont il l'avait traité, était trop affreux pour qu'elle pût me les répéter. Et ce me fut comme un coup de poignard au cœur, qu'ils aient pu lui faire mal, au point qu'elle ne veuille même pas partager sa douleur avec moi.
Ils m'ont mise en garde, reprit-elle enfin. Ils m'ont dit, tiens-toi à l'écart du bâtard, ne fais pas son sale travail à sa place. Ils ont dit des choses que je n'ai pas comprises, à propos de messages d'espions et de trahison. Ils ont dit qu'ils pouvaient mettre tout le monde au courant que j'étais la putain du bâtard.
Elle avait voulu prononcer l'épithète calmement, mais n'avait pu s'empêcher de l'accentuer, comme pour voir si j'allais broncher.
Et puis, ils ont dit que j'allais finir pendu si je ne faisais pas attention. Que faire les commissions d'un traître, c'était être traître soi-même.
Soudain, sa voix devint étrangement calme.
Ensuite, ils m'ont craché dessus, et ils sont partis. J'ai entendu leurs chevaux s'éloigner, mais pendant un long moment, j'ai eu peur de me relever. Jamais je n'ai été aussi terrifié de ma vie.
Elle me regarda, et ses yeux étaient comme deux plaies vives.
Même mon père ne m'a jamais terrorisé à ce point.
Je la serrai contre moi. Tout est ma faute. Elle s'écarta de moi pour me regarder d'un air perplexe, et je compris que j'avais pensé tout haut.
« Ta faute ? Tu as fait quelque chose ?»«
Non. Je ne suis pas un traître. Mais je suis un bâtard, et à cause de moi, ça retombe sur toi. Tous les avertissements de patience, tous ceux que les uns et les autres m'ont donnés sont en train de se réaliser. Et je t'y ai entraîné. »
« Que se passe-t-il »
demanda-t-elle doucement, les yeux agrandis. Le souffle lui manqua soudain.
« Tu as dit que les gardes t'ont empêché de passer les portes, que tu n'avais pas le droit de quitter Castelcerf. Pourquoi ?»«
Je ne sais pas exactement. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais il en est une dont je suis sûr. C'est que je dois te protéger. Et pour ça... « Je ne dois plus m'approcher de toi pendant quelque temps. » ni toi de moi. Tu comprends ?
Une lueur de colère s'alluma dans ses yeux.
Ce que je comprends, c'est que tu me laisses me débrouiller toute seule.
Non, ce n'est pas ça. Il faut leur faire croire qu'ils t'ont fait peur. Que tu leur obéis. Comme ça, tu ne risqueras rien. Ils n'auront plus de raison de s'en prendre à toi.
Mais ils m'ont vraiment fait peur, espèce d'idiot,
siffla-t-elle. Moi, j'ai appris ceci. Quand quelqu'un sait que tu as peur de lui, tu n'es plus à l'abri de ses atteintes. Si je leur obéis, ils s'en prendront encore à moi, pour m'ordonner de faire ci ou ça, pour voir jusqu'où ma peur m'obligera à me plier à leur volonté.
Je reconnus les cicatrices laissées par son père dans sa vie. Des cicatrices qui la rendaient forte, d'une certaine façon, mais aussi vulnérable.
Le moment n'est pas venu de nous dresser contre eux, lui murmurai-je. Je ne cessais de regarder par-dessus son épaule, en m'attendant à voir le garde venir voir où nous avions disparu.
« Suis-moi, » dis-je,
et je l'entraînai plus loin dans le dédale des entrepôts et des dépendances. Elle m'accompagna sans maudire un moment, puis arracha soudain sa main à la mienne.
« C'est le moment de se dresser contre eux, » déclara-t-elle, « parce que, quand on commence à repousser au lendemain, on n'agit jamais. Pourquoi ne serait-ce pas le moment ?»«
Parce que je ne veux pas te voir impliqué dans cette histoire. Je ne veux pas qu'il t'arrive de mal. Et je ne veux pas qu'on dise de toi que tu es la putain du bâtard. » Le mot avait eu du mal à franchir mes lèvres.
Molly releva la tête. « Je n'ai pas honte de ce que j'ai pu faire, » dit-elle d'un ton égal.
« Et toi ?»«
Non, mais... »«
Mais tu n'as que ce mot à la bouche !»
jeta-t-elle d'un ton amer. Et elle s'éloigna.
« Molly !»
Je bondis et la saisis aux épaules. Elle se retourna d'un bloc et me frappa, non pas du plat de la main, mais de son poing fermé, d'un coup qui me fit reculer en chancelant, du sang plein la bouche. Son regard furieux me mettait au défi de la toucher à nouveau. Je m'en gardais bien. Je n'ai jamais dit que je ne me battrais pas, seulement que je ne voulais pas t'y voir impliqué. Laisse-moi une chance de mener le combat à ma façon. Je sentis le sang me dégouliner sur le menton. Je ne l'essuyais pas. Crois-moi, avec du temps, je les retrouverai, et je leur ferai payer, à ma façon. Maintenant décris-moi ces hommes, leurs vêtements, leur manière de monter à cheval, comment étaient leurs montures, et les hommes parlaient-ils comme les gens de serre ou comme ceux de l'intérieur? Portaient-ils la barbe? Te rappelles-tu la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux? Je la vis réfléchir, et je sentis que son esprit renâclait à revenir sur la scène.
Brun, dit-elle enfin.
Des chevaux bruns, avec la crinière et la queue noire. Et les hommes parlaient comme tout le monde. L'un des deux avait une barbe noire, je crois. C'est difficile d'y voir avec la figure par terre.
C'est bien.
C'est très bien,
répondis-je, bien qu'elle ne m'eût rien appris d'utile. Elle détourna les yeux de mon menton ensanglanté.
Molly, fis-je plus bas, je ne viendrai pas chez toi pendant un moment.
Parce que tu as peur.
Oui. Oui, j'ai peur. Peur qu'on te fasse du mal. Qu'on te tue pour me faire du mal à moi. Je ne veux pas te mettre en danger en venant chez toi. Elle ne réagit pas. Je ne savais pas si elle m'avait écouté ou non. Elle serra les bras contre sa poitrine. Je t'aime trop pour vouloir que ça t'arrive. À mes propres oreilles. Cette déclaration sonna creux. Elle s'éloigna, les bras toujours serrés contre sa poitrine, comme pour s'empêcher de tomber en morceaux. Qu'elle paraissait seule, dans sa robe bleu crottée, la tête courbée. « Molly jupe rouge, » murmurai-je. Mais cette Molly-là, je ne la voyais plus. Je ne voyais que ce que j'avais fait d'elle.